France Culture.
Bon, alors la première chose, elle est un peu protocolaire, si
Ouais.
vous voulez, puisque comme c'est pour les archives, ça compte beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, votre nom, votre lieu et votre date de naissance?
Moi, je m'appelle à l'origine Marceline Rosenberg. Je suis née le 19 mars 1928 à Épinal, Vosges.
Donc j'ai écrit le 1er août. Chère Marceline Laurie Dan Evans, je m'appelle Aurélien, j'ai 14 ans et j'habite à Avignon, dans le Vaucluse, une région, je pense, que vous connaissez très bien.
Mes parents sont des juifs polonais, émigrés pour mon père en 1919. Moi, je suis mise pensionnaire au lycée d'Orange, au collège de jeunes filles d'Orange. Et là, les histoires de juifs, de Rosenberg, commencent. Il y a les filles qui sont pour, les filles qui sont contre, il y a les filles pétainistes, il y a les filles gaullistes, et les filles gaullistes, c'est les rebelles.
Ça, c'est
Donc,
à l'école, hein.
à l'école, c'est les rebelles. Bon, donc moi, je suis vite dans les rebelles. Parce que d'abord, je suis déjà gauchère, en plus de ça, je suis rouquine, en plus de ça, je suis juive, ça fait une drôle de... plus étrangère, ça fait un drôle de paquet.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais je vous ai téléphoné le 31 juillet et nous avons parlé pendant une vingtaine de minutes. Je vous ai dit que j'avais été profondément bouleversé par votre histoire, que j'ai lu passionnément dans vos livres, dont mon préféré fut « Et tu n'es pas revenu », où vous expliquez à votre père le monde après 1945, la création d'Israël en 1948, le traumatisme de votre famille lié à son décès, votre amie Simone devenue ministre, et votre vie avec Chris Loridan et Yoris Evans. Aurélien, un grand admirateur. Je le suis toujours parce que... Pour moi, Marceline, c'est une femme qui m'a impressionné.
Mais donc je suis à Drancy. Ben, Drancy, c'est une espèce de quadrilatère comme ça, à porte ouverte. Enfin, rectangle, quoi.
Oui. Ça se passe à quelle époque exactement, ça?
Ben, ça doit être début mars 44.
44.
Voilà. Mais je suis une petite fille de 16 ans qui sait même pas comment les enfants viennent au monde. Je suis pas considérée comme une jeune fille. Donc je suis pas dans les secrets des jeunes filles. Mais je me souviens d'avoir vu des jeunes filles très pédantes, très très bien habillées, très pédantes, et de les avoir vues après sans cheveux à Birkenau, j'étais morte de rire. J'ai dit, mon vieux, t'es comme moi là.
J'ai remarqué que les rescapés de la Shoah, ils décrivent toujours les mêmes choses, ou du moins les mêmes situations, mais d'angles différents. Que Marceline, elle raconte d'autres choses, d'autres histoires, elle est beaucoup plus crue et raconte plus de détails.
Et Birkenau, qu'est-ce que vous y faites, hein?
D'abord, j'essaie de me éviter d'être attrapée pour les corvées. Donc, j'ai inventé un truc. Il y a les paillasses. Et il y a des espèces de couvertures minables, mais il y a quand même des couvertures. Comme c'est très militaire, vous l'avez déjà entendu ça, non? Il faut bien plier les paillasses latéralement, comme ça, dans le sens de l'horizontale. Alors le coup, c'est de se faire cacher à l'intérieur. C'est-à-dire que tout de suite après l'appel, te trouver une copine qui accepte bien de te recouvrir entre les paillasses. Et comme ça, tu te fais pas piquer. Mais il faut du courage. Mais moi, je l'ai fait.
Ce qui est incroyable dans ce personnage, parce que c'est un personnage, c'est qu'elle a eu plusieurs vies. Elle a eu plusieurs expériences. Elle a eu son adolescence. Puis ensuite, elle est rentrée dans le monde du cinéma. Mais en même temps, elle s'est engagée dans la guerre d'Algérie. Puis ensuite, elle est allée au Vietnam. Puis elle s'est engagée pour plein de choses, en fait.
J'ai accompagné Marceline Loridan-Ivens dans la dernière année de sa vie, jusqu'à sa mort en 2018. Je l'avais rencontrée un soir, quelques jours après la mort de Simone Veil. Elle m'avait dit qu'une page de l'histoire se tournait et qu'elle allait bientôt mourir. Vers la fin de la soirée, elle m'a proposé de devenir son assistant. « Ce n'est pas un travail intéressant », m'avait-elle dit, « c'est moi qui suis intéressante ». J'avais remarqué son numéro de matricule sur l'avant-bras, 78 750. Son léger boitement aussi, à cause d'une blessure pendant la guerre du Vietnam. Mais je ne savais pas encore qu'elle était aussi la Marceline si émouvante du film « Chronique d'un été », un classique du cinéma documentaire. J'ai voulu la faire apparaître, dans ses excès et ses contradictions, à travers le récit de personnes qui, comme moi, ont été touchées par elle. Et d'abord, ceux par qui je l'ai connue, Jonas Moses Lustiger et sa mère, l'écrivaine allemande Gila Lustiger.
Pour moi, c'était la rencontre avec Marceline, c'était aussi, comme j'étais entouré de survivants, je fais partie de ce qu'on appelle la troisième génération, donc il y avait mon grand-père et tous ses amis. C'était la première aussi qui avait tellement une telle liberté de parole. Et c'était très différent pour moi. C'était tout d'un coup un modèle d'expérience concentrationnaire et ensuite de vie après les camps, où en fait c'était un sujet omniprésent, permanent, vécu de manière très ouverte. Je pense que c'est aussi parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont eu des enfants n'ont pas voulu transmettre le traumatisme à la génération d'après et du coup pas en parler et reconstruire leur vie. Et Marceline est restée dans ça parce qu'elle aussi a fait le choix conscient de ne pas avoir d'enfant. Donc, ce qui peut-être lui a aussi donné cette liberté de vie et cette liberté de parole. Parce qu'elle avait à protéger personne, en fait. Et c'était très différent, tout d'un coup, de voir débarquer dans nos vies une femme qui avait vécu cette horreur, mais qui non seulement était prête à en parler, mais en parlait très librement, brutalement parfois.
Cache, elle racontait des choses. Parce que les camps, c'est en noir et blanc, c'est terrible, c'est...
Et Marceline m'avait raconté cette histoire de l'arrivée, qu'elle se souvenait très bien de l'arrivée des Juifs de Grèce. Elle dit, toutes ces femmes très belles, bronzées, etc., sont toutes tombées comme des mouches. Et donc elle avait parfois une brutale, une manière de raconter ces histoires. Elle dit, elles sont toutes tombées comme des mouches, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas aucun filtre. Et c'était bouleversant, mais c'était aussi... chose que j'avais jamais vécu comme ça, c'est-à-dire que j'avais vécu que jusqu'à l'arrivée de Marceline dans nos vies, la Shoah par beaucoup de silence, beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, des livres à droite et à gauche, mais pas quelqu'un qui arrive dans ton salon et qui tout d'un coup déballe tout avec un verre de vodka à la main, un pétard dans l'autre et sort tout ça. Quoi.
Je peux parler de mon père ? Parce que j'ai vécu dans le non-dit. C'est aussi mon attachement à Marceline. En gros, je pus poser à Marceline toutes les questions que j'ai jamais posées à mon père. Marceline était mon encyclopédie des camps. Et moi, j'ai jamais rien pu demander à mon père, j'ai demandé tout à Marceline. Donc, c'est ça notre deal.
En fait, c'était pas une mamie survivante du tout. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on l'a connue, elle devait avoir presque 80 ans. Et c'était une femme, voilà, très libre, très forte, très indépendante, tout en étant toute frêle et toute petite, immense, quelque chose de très magnétique chez elle. Et c'était pas par empathie ou par totémisation de quelqu'un qui a été témoin de l'histoire qu'on était proche d'elle. C'est parce qu'elle était un vrai caractère. En plus d'être très élégante, elle aimait être entourée, c'est dans cette période de sa vie à laquelle je l'ai connue, de gens jeunes, beaux, qui la traitaient un peu comme une copine, ce qu'elle était pour beaucoup d'entre eux. Mais elle en a beaucoup, oui, c'était très plaisant pour elle.
Marceline Loridan-Ivens, la rebelle revenue des camps. Un documentaire d'Antoine Ravon, réalisé par Franck Lilin.
Je m'appelle Judith Pérignon, je suis journaliste, romancière, et j'ai eu la chance d'écrire avec Marceline Loridan « Et tu n'es pas revenue », et puis ensuite « L'amour après ». La relation entre Marceline et moi, elle est... C'est Christophe Bataille, donc de chez Grasset, qui a pensé à moi pour faire « Et tu n'es pas revenue ». Et donc, elle habitait au-dessus de chez Grasset, hein, rue des Saints-Pères. Et la première fois qu'on est monté chez elle, Marceline a tout de suite dit, ne s'embarrassant pas de ma présence, « Ouais, bon, mais enfin, elle ne connaît pas mon histoire, ça aurait été plus simple avec une copine, là, faut tout recommencer. » Donc, ce n'était pas la meilleure façon de me mettre à l'aise. Mais en fait, je pense qu'elle aimait ça. Elle prenait le pouvoir tout de suite. Et donc, moi, je lui ai dit, bah, écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on peut essayer. Et si ça se passe mal, on arrête. Parce que, bon, évidemment, je la vous voyais. Et donc, la fois d'après, ben, je suis revenue seule et posant des questions. Et donc, on avait ces rendez-vous rituels. Et je ne sais plus au bout de combien de temps, elle m'a dit, tu sais, je t'aime bien. Et donc, ça voulait dire, ok, donc, oublie ce que j'ai dit au début. Ça va, on continue ensemble. Elle m'a dit un jour, toi, t'es juive. Alors, j'ai senti que c'était un grand compliment. C'était au-delà de « je t'aime bien ». Alors, je lui ai dit, mon prénom veut dire la juive, mais je ne suis pas juive. Moi, je te dis que t'es juive. Et là, j'ai senti que j'avais atteint une place dans son cœur et c'était formidable. Donc, si tu dis s'il y a encore des lettres...
Ça peut être là-dedans.
Ça peut être dans cette armoire?
Oui. Il y a tellement d'années que je ne suis pas venue ici.
Là, il y a des cassettes. Peut-être un petit mot. J'ai attendu, mais en vain, un petit mot de toi. Ah, c'est encore quelqu'un qui attend que tu écrives. Il rejoint l'aldette.
Oui.
Tous ceux à qui tu n'as jamais répondu. Il y a plus de 6 mois non, que nous n'avons pas échangé.
Ça m'arrive beaucoup de ne pas répondre.
Ces hommes qui attendaient que tu répondes et
elle
tu ne répondais pas.
Soupirant, oui.
Et c'est là qu'elle me dit, mais moi j'ai une valise. Ah bon? Et moi j'ai une valise de toute ma correspondance des années 50, 60. Et il va s'avérer que c'est plein de lettres d'amour. Je lui dis, mais tu me la montres. Tu me montres cette valise, toutes tes lettres, ta valise d'amour, tu me la montres. La première fois, elle m'a dit, non, pas tout de suite. Donc, ça, c'était Marceline, elle aimait bien, elle a senti ma curiosité, donc il n'était pas question de me satisfaire tout de suite. Et finalement, au bout de, je crois que 15 jours après, on l'a ouverte. Elle était dans son bureau, sur le côté. Ces vieilles valises noires, mi-carton, sky, un peu fripé. Et je pense qu'elle n'avait pas été ouverte depuis très très longtemps. Et donc elle l'ouvre et là, un fatras de papier. D'enveloppes, de lettres sans enveloppe, de vieilles photos, de cartes postales. Donc au début, on a pioché comme ça, l'une et l'autre. Mais elle ne voyait rien. Et très vite, elle me disait, ben, lis-moi. C'était plutôt ses aventures des années, vraiment 50, avant qu'elle se marie donc avec Monsieur Loridan. Et c'était en fait sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, qui était chargée de toutes les peurs d'une jeune fille qui sort des camps, de toutes les peurs de son corps, mais aussi de toute cette époque de liberté, de Saint-Germain-des-Prés, et de tous ses rescapés, la Seconde Guerre mondiale, dans ces années 50-60.
Donc, et... Elle m'a aussi raconté que elle et son père sont les seuls, sont ceux qui étaient amenés dans les camps, les autres étaient cachés, et donc sa mère ne savait absolument pas d'où elle sort, elle n'avait aucune idée ce que c'est Auschwitz, et la grande obsession de la mère, elle voulait savoir si on a violé Marceline, ça veut dire pour elle, une fille violée dans la guerre, c'était l'horreur le plus absolue. Elle n'avait aucune idée ce que Marceline avait subi dans les camps. Marceline, au début, elle ne pouvait même pas dormir dans un lit, elle ne pouvait pas se nourrir, elle avait des cauchemars. Et donc, elle ne rentrait pas dans cette joie d'après-guerre. Elle n'était pas adaptée à une flopée de gens qui voulaient que oublier, commencer, faire la fête, cette joie qui était en Allemagne et en France. Et donc, le seul endroit où elle se sentait, je ne sais pas combien de temps, mais vraiment à l'aise, c'était dans les bars à Saint-Germain, où elle était avec des survivants et les collabos. Ils se fréquentaient dans les bars à Saint-Germain.
Je vais souvent manger au Flore, parce qu'ils ont une chose délicieuse, c'est la soupe à l'oignon. Il y a des heures dans ce bistrot. Moi, j'aime bien y venir le soir, quand il n'y a plus personne.
On a fait pas mal de ces anniversaires ici, où on était au premier étage, ici, avec plein d'amis. On a fait pas mal de... Ouais, invité tout le monde. Quand on venait au Flore, elle était reçue comme une reine. Et ça, elle aimait bien. Elle aimait beaucoup. Saint-Germain, c'était son berceau, en fait, parce qu'elle est passée de l'enfance, hein, 13 ans ou 15 ans, à l'adulte. Et c'est là qu'elle s'est reconstruite, en fait, qu'elle a fréquenté tous ces gens qui sortaient de la guerre, qui étaient tous très mélangés, aussi bien ceux qui avaient résisté, ceux qui n'avaient pas résisté, ceux qui avaient été déportés, ceux qui n'avaient pas été. Je m'appelle Evelyne Rago-Adorn et je suis documentariste. Et je suis une amie de Marceline d'une bonne quarantaine d'années.
Il y a quelque chose qu'elle énonce assez rapidement, c'est le désir d'apprendre, le fait que ses études ont été interrompues et qu'elle a envie de savoir. Et en fait, sa mère s'établit à Paris, donc elle va à Paris. Elle voit des films, elle rencontre aussi des gens, notamment dans un lieu qui est un lieu de grande socialisation à l'époque, au Saint-Germain-des-Prés, dans lequel il y a beaucoup de gens de cinéma, et notamment quelqu'un comme Pascal Daumont, qui sera l'épouse du producteur Anatole Daumont de Chronique d'un été. Il y a toute une forme de socialisation de gens relativement marginalisés, mais dans un moment où elle commence non seulement à voir des films, mais aussi à prendre des cours d'art dramatique, puisque sa maman lui a payé des cours à Simon. Et puis, elle trouve aussi, par l'intermédiaire de sa maman, donc ce travail de psychosociologue appliqué qui consiste à faire des interviews, des enquêtes. Elle a différents petits métiers, on va dire, mais qui sont déjà une forme d'inscription sociale, même si, pour elle, c'est assez difficile, en fait, de trouver une forme de stabilité. Et puis, elle a ce jeune homme, très peu de temps avant Chronique d'un été, qu'elle a rencontré. Ça fait presque 2 ans qu'ils sont ensemble. Sa famille ne comprend pas pourquoi elle est non seulement avec un goy, mais aussi avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, Jean-Pierre Sergent.
Puisqu'il faut commencer, que faites-vous toute la journée? Par exemple, quand vous levez le matin, que faites-vous?
En général, je travaille.
Quel travail?
Je fais des enquêtes de psychosociologie dans une boîte de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews, d'analyser ces interviews, éventuellement en faire les synthèses, ce qui m'absorbe quand même pas mal de temps, je crois.
Ça vous intéresse?
Non, pas du tout.
Chronique d'un été qui a pour titre provisoire « Comment vis-tu ?». Ça précise vraiment quel est le projet de ce film, qui est une co-réalisation entre Jean Rouch, qui est un ethnographe, mais aussi cinéaste, qui introduit le cinéma au CNRS et qui a créé le comité du film ethnographique et qui est spécialiste en fait de l'Afrique. L'autre co-réalisateur n'est pas du tout cinéaste, il est un sociologue, c'est Edgar Morin. Il travaille également au CNRS, mais il a un intérêt, disons, théorique pour le cinéma. Il a fait paraître notamment 2 ouvrages sur cette question-là. Edgar Morin propose à Jean Rouch de s'occuper non plus d'une tribu africaine, mais d'une tribu, dit-il, parisienne, de manière à venir documenter le temps présent. Donc le projet de Chronique d'un été, c'est cet attelage entre finalement 2 hommes qui sont préoccupés par le fait de recueillir la parole et dans un contexte beaucoup plus large qui est celui de ce qu'on appelle le cinéma direct, et qui consiste à essayer de réinventer des sujets, c'est-à-dire de s'intéresser vraiment au quotidien, aux citoyens, à la façon dont on se débrouille avec la vie, à la manière dont le travail est parcellisé, dont il peut être aliénant, la manière dont on arrive à se loger, ne pas à se loger, la manière dont on vit en couple ou pas, etc. Donc des questions vraiment où il n'y aurait plus de rôle interprété par des comédiens, mais il y aurait des personnages, vraiment des personnages, mais qui joueraient en quelque sorte leur propre rôle en acceptant de parler. Donc c'est ça, Chronique d'un été, c'est un film qui se cherche et qui embarque une petite équipée relativement amicale et qui conduit un projet qui est à la fois très sérieux, cette visée sociologique, qu'est-ce que c'est Paris en 1960, mais aussi un projet assez facétieux. Il s'agit de faire du cinéma et donc d'inventer aussi des dispositifs qui fassent film.
Lorsque vous sortez dans la rue le matin, est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire dans la journée?
Écoutez, il arrive des fois quand je sors dans la rue le matin que j'ai des choses à faire, mais il n'est absolument pas certain que je les fasse. Je sais d'ailleurs jamais exactement ce que je ferai le lendemain. Je vis d'ailleurs en pensant que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et puis, pour moi, l'aventure est toujours au coin de la rue.
Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question « Êtes-vous heureux ?» Vous iriez ?
Donc c'est une femme très élégante, avec des cheveux courts. C'est un film qui est en noir et blanc, donc elle a une chevelure sombre, plutôt mousseuse. Elle a un petit haut assez près du corps qui met ses avant-bras à nu. C'est quelqu'un qui fume. Et c'est quelqu'un aussi qui fait très attention à ce qu'elle dit. Et sa singularité, c'est qu'en effet, c'est la seule dans cet ensemble-là à porter un événement traumatique du passé qu'il va s'agir progressivement de mettre en scène. Ça, c'est une forme de spécificité. C'est ce qui fait aussi une forme d'attirance, en fait, pour ce personnage, parce qu'on sent qu'il y a une forme d'épaisseur, qu'il y a une épaisseur temporelle, qu'il y a une épaisseur historique, qu'il y a une forme de tragédie qui est au-delà de la question de la personne. Donc, il y a une forme de résonance autour de son personnage et tout mot, finalement, qu'elle dit résonne d'une façon très singulière.
Marceline était de petite taille, elle était vraiment 1m50, pas plus, toute mince, parce qu'elle est rentrée adolescente dans les camps, donc elle était sous-nourrie. Je me souviens, c'était un grand problème, elle chaussait du 32, donc elle trouvait presque pas de chaussures à talons. Elle était si petite, elle cherchait des chaussures. Dès qu'on trouvait des chaussures à talons de petit format, on achetait. Je me dis, en gros, comment ça se fait qu'elle arrivait à s'imposer et qu'on la respectait? Je demandais à, je crois, Jean-Pierre Sergent. Mais en fait, pourquoi vous le respectez? Et il m'a dit, parce qu'on savait d'où elle sort. Et donc, je demandais à Jean-Pierre Sergent, est-ce que vous l'avez questionné là-dessus? Il m'a dit non. Et donc, j'ai couru vers Marceline. Et je lui demandais, est-ce que quelqu'un, à l'époque, tout le monde savait d'où tout sort, Jean Rouge, Régis Debray, est-ce qu'ils t'ont posé une question? Elle m'a dit non. Et je lui demandais, tu te sentais comment? Elle m'a dit, seule.
Désert, cette place de la Concorde. Il y a 20 ans. 15 ans. Je me souviens plus maintenant. Petit boy. Tu verras. On ira là-bas, mais on travaillera dans des usines. On se verra le dimanche, je disais papa. Toi, tu me répondais. Tu es jeune, toi, tu reviendras. Moi, je reviendrai sûrement pas. Puis voilà, je suis là maintenant, mais j'accouche pas. Je suis revenue, tu es restée.
La séquence du 15 août, d'abord on la voit dans le film à la Concorde, puis au Halles, on voit une jeune femme qui a l'air fort peinée, qui avance dans un lieu qui a l'air presque désert, qui s'adresse en fait à son père disparu, et où elle évoque quelques petites scénettes, donc celle de la rencontre de son père après qu'ils étaient séparés à Auschwitz, où elle a donc... À un moment, elle retrouve son papa, puis ils se parlent. Son père est battu, donc cette petite scène, elle en parle. Je dis petite peine, c'est une énorme scène dans une vie. C'est une chose extrêmement douloureuse et émouvante. Mais dans le film, c'est vraiment quelques mots. Et puis, on garde aussi dans le film le retour. Et le fait qu'elle dise qu'au retour, c'était extrêmement dur pour elle. Et qu'il y avait tout le monde sur le quai de la gare qui l'attendait, notamment son petit frère qui ne la reconnaît pas. Donc en fait, c'est la dimension extrêmement forte, émotionnelle, qui donne une sorte d'aura à cette scène. Mais Jean Rouch et Edgar Morin n'ont absolument pas gardé les référents historiques, alors que Marceline Loridan, ce jour-là, est beaucoup plus précise. C'est-à-dire qu'elle va dire notamment quelles sont les prisons et les camps dans lesquels elle est passée. Donc elle parle de Sainte-Anne, la prison Sainte-Anne, elle parle de la prison des Baumettes, où dans la réalité elle a donc été internée entre le 1er mars et le 12 avril. Elle parle du camp de Drancy, elle parle d'Auschwitz-Birkenau, où elle a donc été déportée le 13 avril. Elle parle aussi de Bergen-Belsen, où elle a été évacuée en novembre. Elle parle aussi de Ragun, où elle a été donc dans un camp pour travailler en tant qu'ouvrière en fait sur du matériel militaire allemand. Elle parle aussi de Theresienstadt, où elle a été évacuée avant d'être libérée. Donc en fait, c'est assez précis, mais cette précision-là n'est pas dans le film. Au montage, on va gommer tout ce qui va permettre d'ancrer dans l'histoire, c'est-à-dire à la fois dans des lieux, mais dans une chronologie, le parcours de Marceline Loridan, pour garder la dimension du vécu, notamment la souffrance d'avoir perdu son père.
Quand je t'ai vu, Maggie, et maman, et Michel, tu m'as appelé ta petite fille. J'étais presque heureuse d'être déportée avec toi tellement je t'aimais. Papa. Papa. Que je voudrais t'avoir maintenant. Puis...
Il faut entendre que la question de l'intimité et de la douleur est souvent perçue comme quelque chose relevant de la sphère privée dans les années 60, qu'il s'agit de la déportation ou d'autres sujets. Et une des difficultés de perception et de réception en fait du récit de Marceline Loridan dans ce film est de penser que probablement elle peut s'exhiber. Vraiment une chose qu'on n'oserait absolument pas dire, bien évidemment, aujourd'hui, à un déporté. C'est pas simplement la déportation, mais c'est globalement le rapport au privé et au public qui est extrêmement différent. Mais cette question privé-public, c'est ce qui rend vraiment difficile d'entendre ce qu'elle a à dire. C'est donc un journaliste de Cannes qui va lui dire « Mais est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher une forme d'exhibitionnisme de l'âme ?» L'enjeu, c'est vraiment de savoir si c'est bien joué ou mal joué, si c'est archi faux ou pas, et donc si c'est authentique en termes de confession. Non pas que les faits ne seraient pas avérés, c'est pas du tout l'enjeu, mais est-ce qu'on est justement du côté de cette vérité recherchée ou est-ce qu'on est dans une composition de soi? La réception est vraiment très particulière, absolument sans commune mesure avec ce que l'on peut percevoir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Frédérique Berthet, et je suis professeure d'études cinématographiques et écrivaine.
Marceline sort de camp et elle a un souhait, elle veut se débarrasser de son nom juif. Elle veut se débarrasser de son histoire juive et son nom juif. Elle va se marier, elle s'appelle...
Loridan.
Oui, elle va se marier avec un ingénieur qui s'appelle Loridan, qui va construire des ponts. Et donc on est dans les années 50 et elle part avec lui en Provence et elle voit comment à l'époque on traite des travailleurs qui viennent du Maghreb. Elle voit qu'on les tutoie, elle voit qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les travailleurs français. Elle va se dire « je ne suis pas sortie des camps » pour assister à ça. Et Marceline, dans les années 50, va devenir porteuse de valises.
Pour le FLN.
Oui, elle lutte pour...
L'indépendance de l'Algérie.
Oui, elle lutte pour l'indépendance de l'Algérie, avec d'autres, dont Sartre. Et puis elle vient de là. Elle fait un film sur la guerre de Vietnam. Elle était toute sa vie du côté des faibles,
des opprimés.
Oui.
Des...
Ouais.
Je rentre d'Algérie et j'assiste à une projection d'un film qui s'appelle Valparaiso, fait par Yoris Evans, qui est un chef-d'œuvre. Et spontanément, je vais voir cet homme que je ne connais pas du tout. Pour lui demander des conseils. Et donc, il me demande mon adresse, je lui donne mon adresse en toute innocence, et je reçois un énorme bouquet de fleurs, et puis pendant plusieurs mois, j'ai aucune nouvelle de lui, puisque c'est un homme que tout le monde appelait à l'époque le Hollandais volant. Un jour, je vais voir une exposition de photos, et il était là. Il m'a invité à dîner, et on ne s'est plus jamais quitté.
Il y avait eu Chronique d'un été dans lequel elle montrait, non seulement elle montrait son numéro, mais elle parlait à son père. Mais après ça, Marceline, c'était les films avec Yoris. Elle se définissait plutôt comme ça. Je pense qu'elle a pensé à sa propre guerre toute sa vie, et notamment quand elle est allée sur d'autres champs de bataille. Elle dit que dans les camps, elle a connu trop de choses trop tôt. Elle était très jeune. Et pas assez pour comprendre. Et qu'ensuite, elle est allée à la poursuite de ces guerres, déjà pour lutter avec les gens, ce qu'elle croyait, et ce que tout le monde croyait. C'est vrai que le Vietnam, ça a été quand même un mouvement général. Tout le monde était contre la guerre du Vietnam. Mais aussi parce qu'elle disait qu'elle allait chercher ce qu'elle n'avait pas pu comprendre aussi. Et aussi l'intensité de la vie. Pour elle, c'était une façon aussi, je pense, d'oublier. Et pendant toutes ces années, je pense qu'elle n'a pas cessé d'y penser, mais ça lui a permis de vivre autre chose. Parce que quand elle a rencontré Yoris, c'était vraiment le sortir de l'après-guerre, elle était encore très perdue. Mais elle n'en parlait pas. Au contraire, elle essayait de se reconstruire, de se cultiver, de rencontrer des gens qui étaient des intellectuels, qui pouvaient lui apporter des choses. Mais elle était quand même très perdue, elle n'avait pas de métier vraiment, elle faisait des petits boulots, elle n'était pas... Et c'est le cinéma qui lui a donné, le cinéma engagé avec Yoris, qui lui a donné cet élan vital, en fait, je crois.
On est resté plus de 3 mois au 17e parallèle en vivant à 10 mètres sous terre. D'abord, il faut dire que les premiers bombardements qu'on a vécus nous ont complètement terrorisés. Enfin, moi, m'ont complètement terrorisé, je veux dire. On est parti la nuit de Hanoï et la première étape, c'était à peu près à 70 km dans un centre d'hébergement. Et puis surtout, on a vécu notre premier bombardement dans ce centre d'accueil qui était dans une sorte de village un peu sous terre, pas très profondément, mais quand même sous terre. Le toit était à ras de terre, quoi, à peu près.
Et là, on dormait très tranquillement. Et puis, tout d'un coup, en pleine nuit, il y a eu des bombardements d'une violence terrible, des jets de bombes à billes. Puis on a vite couru vers des abris très profonds. Et c'est quand je suis remontée de cet abri-là que j'ai vraiment été terrorisée. Parce que quand je suis retournée dans ce qui était ma chambre, dans la terre, elle était complètement dévastée. C'est-à-dire, si je ne m'étais pas réveillée, c'était cuit, quoi. Alors, c'est là où on se pose le problème de... On se sent investi de quelque chose d'important. On veut faire un film. On pense que c'est aussi à la fois être témoin de quelque chose, mais c'est aussi, aussi le privilège d'y avoir été. C'est-à-dire, c'est à la fois dur à faire, mais c'est aussi... on en a la rançon de la gloire aussi, il y a tout ça. Et puis, il y a sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Est-ce qu'on choisit sa vie ou... Et là, en même temps, pour moi, c'était si vous voulez, 10 ans plus tard, j'ai pris conscience que j'avais jamais arrêté de faire la guerre depuis 1939. Alors je continuais la guerre, quoi. En même temps, pour moi, c'était sans doute quelque chose qui est peut-être terrible à dire, mais qui est une réalité, c'était le plaisir de la guerre, quoi.
Septième parallèle, c'est une merveille. Surtout quand tu sais, quand tu comprends ce qu'ils ont vécu pour les faire. Après, il y avait une certaine rigidité chez Yoris. Il avait tout planifié, comment les opérateurs devaient travailler, comment l'interprète devait travailler. C'était pas on y va et on verra bien. Encore que ce qui m'a beaucoup étonné, je l'ai découvert récemment, c'est qu'ils sont partis sans rien, sans pellicule, sans caméra, sans rien. Et c'est un Américain sur place qui revendait son Ariflex et son Agra. Et Marceline ne s'était jamais servie d'un Agra. Elle a tout découvert comme ça sur place. Donc je pense que pour Yoris, c'était une mission. Et pour Marceline, c'était une aventure. C'était... Elle l'a dit, hein, elle a couru après la guerre longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est ça qu'il lui a offert.
Maintenant, nous pouvons travailler en sécurité grâce aux abris portables. C'est l'invention d'un paysan du village. Il nous offre une très bonne protection contre les bombes à billes. On les utilise dans toute la province.
En fait, ils étaient beaucoup, beaucoup sous terre. Ils étaient obligés de se protéger tout le temps. Elle disait qu'elle avait fait, elle avait appris le son en se basant sur ce que faisait Yoris, enfin, sur ce qu'on faisait avec l'image, c'est-à-dire le gros plan, le plan général, etc. Et elle dit qu'elle a vraiment décomposé le son. Et d'ailleurs, les ingénieurs du son, quand ils ont ramené le matériel, étaient très étonnés parce qu'il y avait vraiment des plans sonores très différents. Donc c'est pour ça qu'elle fabriquait des perches, des instruments, et puis ils avaient des assistants, donc elle devait positionner des micros un peu partout pour avoir à la fois le son de l'avion qui arrive et puis le son de ceux qui sont en train d'aller ramasser les débris, etc. Donc elle a fait un super travail, je trouve. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de son, je pense que c'est assez remarquable.
Shanghai, 6h du matin. La pharmacie, dite pharmacie numéro 3, dans un quartier très passant au sud de la ville. Elle emploie 24 personnes et reçoit à peu près 1000 clients par jour. Nous étions là quotidiennement pendant 8 semaines.
Ils ont eu ce projet de faire cette série de 12 films en Chine.
Elle a fait un tour de France où elle a interrogé les gens. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur la Chine? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous rapporte comme information sur la révolution culturelle? C'était le plein moment de la révolution culturelle. Et donc, quand ils sont revenus, ça a duré 3 ans presque, le tournage, le montage. Et quand ils sont revenus, plus personne n'était Mao. On avait tous compris ce que c'était que la révolution culturelle. Et donc, on les a traités de propagandistes, ce qui n'était pas complètement faux. Et donc, ils ont dû s'expliquer sur les plateaux de télévision. Ils ont dû s'expliquer, dire qu'en fait, ils avaient filmé la vie quotidienne en Chine. Ils ont essayé de diversifier au maximum les paysans, les ouvriers, les enfants, les écoles. Mais on sent bien que c'est sous contrôle. Elle a dit elle-même qu'ils avaient été naïfs. Parce que c'est vrai qu'ils avaient un réseau de relations en Chine. Yoris avait fait plusieurs films là-bas. Il était très, très respecté, très connu. Pour lui, le socialisme, c'était toute sa vie. Hein, c'était... Donc je pense qu'effectivement, ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait réellement. Par un peu d'aveuglement aussi, oui. Quand on lit leur journal de voyage pendant 17e parallèle, son langage est celui d'un combattant. Il le dit, hein, la caméra est une arme, on est là pour la révolution, pour le socialisme. Je pense qu'il était complètement dedans. Elle, beaucoup moins. Elle, Marceline, c'était une gauchiste, c'était pas une... Elle est restée un an au Parti communiste, elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait. Mais lui était vraiment... c'est toute sa vie, en fait.
J'ai un fils. Après ses études secondaires, il est allé travailler en usine, où il a déjà plus de 10 ans d'ancienneté. Plutôt que d'aller travailler à l'université, il a préféré devenir ouvrier. Je pensais que c'était une grande perte pour moi. C'était inconcevable que mon fils ne fasse pas d'études supérieures et qu'il aille en usine. C'est bien plus tard que j'ai compris qu'il avait choisi un plus juste chemin que le mien.
Nous, on l'a connu quand on a fait notre premier film. On était un groupe, c'était la mode à l'époque, un collectif, on était 6. Et une des membres du groupe connaissait Marceline. Et c'était le moment où c'était un peu leur traversée du désert. Ils avaient fait Yukong, c'était en 79. Yukong était sorti quelques années avant. Ils avaient été très, très décriés. Et donc, elle était friande de nouvelles têtes, de nouvelles choses, de nouveaux... Et c'est elle qui nous a proposé de nous aider. On était un peu inexpérimentés. Il y en avait qui sortaient d'une école de cinéma, d'autres comme moi qui étaient complètement autodidactes. Et donc, elle nous a proposé notamment de nous aider pour le son. Et elle est venue faire le son sur les 2 films qu'on a fait à cette période. Il y avait ce truc avant les années 70 où les cinéastes, ils étaient très peu. Ils se parlaient tous, ils s'entraidaient tous. Et ça, on l'a perdu après... Mais ils voulaient absolument nous aider. Il y avait une table de montage, si on voulait, on pouvait s'en servir. Il y avait du matériel, si on voulait, on pouvait s'en servir. Donc elle était dans cette disposition. Et en même temps, elle était comme elle a toujours été, c'est-à-dire très vivante et très... Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais... Jusqu'à la fin, elle n'a rien arrêté, ni les cigarettes, ni les pétards, ni la cocaïne, ni boire. D'abord, je pense, parce qu'elle n'y arrivait pas à s'en passer. Même si elle essayait de temps en temps. Et c'était la vie pour elle. C'était, je crois qu'elle a toujours été à la recherche d'une intensité de la vie. D'ailleurs, elle avait ce besoin d'une vie forte.
Oui, mais j'étais hors marge, j'étais hors norme. Je risque... De quoi je peux avoir peur?
Vous risquez quoi?
De toute façon, on est toujours dans un camp dont je ne sors pas. Les idées de l'époque ne sont pas celles de ce siècle, de ce nouveau siècle. Et moi, quand même, revenant de Birkenau, ayant vécu le pire, si je ne participais pas à ce moment où on peut changer le monde, pourquoi je serais revenue? Et c'était aussi un échappatoire de soi-même. C'était une façon, sans doute, de s'échapper à soi-même, en projetant vers l'extérieur, tu étais incapable de régler pour toi-même, d'évoluer dans ta pensée, dans ta propre méditation.
Ils avaient fait de nous des rats.
Non, Myriam, nous n'étions pas des rats. Souviens-toi, les nuits de grand froid, tu nous racontais de si belles histoires.
Quelles histoires ? Je me rappelle seulement les flammes, les odeurs de chair brûlée, nos yeux vides, l'entassement de nos corps vieillis trop vite, la peur, la mort, toujours, partout.
D'abord, c'est en, je crois que c'est en 1981, quand il y a le premier grand rassemblement à Jérusalem sur les survivants de l'Holocauste, où en fait, elle a fini toute la série des Yukong, elle a fini en fait de travailler auprès de Yuri Stevens, et elle veut absolument être de ce rassemblement-là, et donc il y a quelque chose qu'elle reconnecte aussi de son histoire, de ses émotions, et à partir duquel elle va essayer d'écrire un film. Et c'est seulement après le décès de Yuri Stevens que ça devient vraiment complètement une histoire sur son retour à Birkenau et ce qui deviendra progressivement La Petite Prairie au boulot, où elle demande à Anouk Aimée d'interpréter en quelque sorte son rôle. Et aussi un moment très important parce que pour faire ce film, elle va beaucoup revenir avec sa sœur, mais aussi avec sa scénariste, mais aussi avec Jean-Pierre Sergent, qui revient, revenu de Chronique d'un été, va aussi l'aider à finir le scénario. Et ce qui est intéressant dans La Petite Prairie au boulot et qu'elle réussit extrêmement bien, c'est d'une part de faire le raccord immédiat avec Chronique d'un été, mais malgré tout, c'est aussi une réflexion filmée sur la problématique en fait du témoin, comment on se souvient, à partir de quoi, est-ce que c'est bon ou pas de se souvenir, qu'est-ce qu'elle a pu dire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire, soit parce qu'elle n'y a plus accès, soit parce que c'est trop dur.
Marceline, ses livres, c'est vraiment la fin de sa vie. J'écrivais des bouts, parce que sinon elle était en boucle en fait. J'écrivais des passages en lui disant je ne sais pas où ce sera dans le livre et c'est sûrement plein de fautes. On le lit ensemble. Et la lecture fait que tu verras et des erreurs et peut-être que ça déclenchera d'autres souvenirs. Et je pense que c'était un mélange de l'âge, 88 ans, et du traumatisme, effectivement, où tu te fixes sur des choses que tu répètes. Et parmi les souvenirs les pires du livre sont venus, le livre était quasiment fini, en fait. Elle me parle d'une jeune fille dont les parents ont été déportés, qui a été cachée par la famille de Marceline, avec sa petite sœur. Et elle a écrit un livre, et elle me dit « Tiens, le livre, il est dans mon bureau, va le chercher. » Et je trouve ce livre, alors elle savait précisément où était ce livre, que cette femme a écrit dans les années 80 aux États-Unis. Et je prends ce livre et tombe une lettre. Et ça, Marceline n'avait pas prévu. Et de ce livre tombe cette lettre que cette femme qui se faisait appeler Jackie, mais qui s'était appelée Ida quand elle était une petite fille cachée, Jackie avait publié ce livre sur sa fuite, sur l'histoire de sa famille, et l'avait envoyé à Marceline, à Paris, dans les années 80, avec une lettre à l'intérieur. Et dans cette lettre, Jackie, mais Ida, racontait à Marceline « Je me souviens quand tu es rentrée des camps. » Ta mère m'a appelée au secours parce que tu ne parlais pas. Tu restais allongée par terre des heures dans ta chambre. Et je suis montée te voir. Et moi, cette lettre que Marceline avait totalement oubliée, je lui ai lue. Et là, j'ai vu quelque chose que j'ai jamais vu dans le regard de Marceline, mais jamais. C'est la seule fois. Et là, je peux dire que c'était la survivante. Une noirceur, des larmes, son regard s'est perdu. Marceline, par cette lettre des années 80 qu'on retrouvait en 2016-2017, est retournée là à l'état de la jeune fille qui rentrait de Birkenau et qui ne pouvait pas se coucher dans son lit et qui restait des heures allongé sur le plancher de sa chambre à Bolène à regarder le plafond. Et ça, ça a été une expérience... que j'oublierai jamais.
Il y avait un jour, un des nombreux jours où, avant le Bataclan.
C'était pas Toulouse, peut-être Toulouse, non ?
Non, non, avant même, où dans les rues, il y avait une manifestation qui est devenue violente et on a attaqué une synagogue dans le 12e arrondissement, je crois. Je me souviens plus, mais j'étais chez Marceline. Elle est direct retournée dans les années 30. Physiquement, j'ai vu ça. Il fallait que je la calme et que je lui dise on n'est plus là. L'antisémitisme des années 30 était un antisémitisme d'État. Et là, c'est la rue et l'État va te défendre. Tu n'es pas menacé à Saint-Germain-des-Prés. Mais c'était vraiment très très dur pour elle de voir ça.
Elle a passé 30 ans à, en fait, quelque part, dissoudre son identité juive dans l'international, donc dans l'international socialiste, dans l'international communiste, dans les luttes internationalistes, et qu'à un moment, elle s'est pris une claque où elle s'est rendue compte que, en fait, son identité juive et sa différence juive n'étaient pas forcément solubles dans ces luttes-là et qu'elle resterait à chaque fois juive, que même si elle s'est cru pouvoir effacer cette particularité, peut-être son histoire, dans ces luttes-là, l'Algérie, le Vietnam, la Chine, qu'en fait la réciproque n'était pas forcément vraie, qu'elle, elle était prête à se mobiliser pour toutes ces causes, mais qu'elle s'est rendue compte à un moment que l'inverse ne serait pas vrai, et c'est là où nous, on a rencontré cette Marceline-là pour qui, en fait, il fallait que les Juifs se... lutte contre l'antisémitisme, parce que personne d'autre ne le ferait.
Et je pense que le troisième livre, c'était se donner du temps, tout simplement. Si j'écris un troisième livre, ben ça veut dire que je vais vivre plus longtemps. Je ne suis pas sûre qu'il y avait un sujet. Elle appelait ça sa santé déclinée. Elle allait mal et elle avait le sentiment qu'elle avait vu ce qu'elle appelait le monde des planches. C'est-à-dire qu'elle avait fait ce passage tout près de la mort. J'ai vu la mort et puis finalement je suis pas morte, je suis revenue. Elle appelait ce passage vers la mort le monde des planches. Et alors moi, dans cette vision, ce tunnel où elle s'est engagée, qui serait la mort, au bout il y avait Simone, Simone Veil. Et souvent les gens qui disent, ils voient quelqu'un et elle c'est Simone. Puis finalement, c'était pas le moment, elle est repartie vers la vie. Et donc moi le fait que ce soit Simone Veil, qu'elle appelle ça le monde des planches, pour moi ça, c'est tous ces baraquements, toutes ces planches, même elle a participé à la construction des rampes autour des rails, tout ça, Marceline. Donc elle a manipulé beaucoup de bois et de pierres. Et alors c'est peut-être moi hein, qui fait cette association, mais le fait que dans ce tunnel qui l'amenait vers la mort, c'est Simone Veil qu'elle a vu. Et moi j'ai vu un tunnel de planches avec tout ce bois qu'elle a manipulé quand elle a travaillé à Birkenau.
Elle avait ce défaut. Elle était très entourée hein, de tout temps, bah, pas seulement à la fin, mais toujours avec des gens très différents, par des gens très différents. Mais elle tenait à ce que les mondes soient séparés. Et elle était très mécontente quand on nouait des relations en dehors d'elle, entre nous. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait besoin de séparer les choses, de séparer les... ce qui montre aussi sa fragilité. Ouais. Elle a besoin d'être au centre. On est tous liés par elle maintenant. On a vécu un très beau moment un an après sa mort. On a fait une, c'est l'un d'entre nous, Alexis Hoffman, qui a réussi à organiser un hommage à Jérusalem, à la Cinémathèque de Jérusalem, où on était tous là et c'était très beau.
L'élan vital, évidemment, tout le monde ne la possède pas de la même manière. Mais il est en chacun de nous, avec la seule différence qu'il y a ceux qui le connaissent et qui l'ont éprouvé, parce qu'ils ont dû l'éprouver ou ils ont été forcés de l'éprouver, et les autres qui ne le connaissent pas d'eux-mêmes. Moi, j'ai été obligée de l'éprouver presque toute ma vie. Et c'est quelque chose qui n'est jamais raisonné de ma part, qui est une sorte d'instinct qui me vient comme ça, dans la rapidité de l'esprit, ou face à une situation concrète, et qui est toujours là. Mais je sais d'où ça vient. Et je sais que je l'ai. Et je sais aussi quand il diminue.
Marceline est morte le 18 septembre 2018, soir de Kippour, la fête du grand pardon. Elle m'avait toujours dit, on choisit le moment de sa mort. Avec Aurélien à l'âge de 15 ans, Jonas Moses Lustiger, Gila Lustiger, Judith Pérignon, Evelyne Rago, Frédéric Berthet et Ginette Kolinka.
J'ai entendu les éloges qu'on a fait sur toi, Marceline, et c'est vrai que si tu voyais tous les amis qui sont autour de toi, tu serais... Oh, je suis sûre que tu le savais. Que tu les vois et tout. Et moi, par contre, c'est vrai, tu n'as que des qualités, mais je vais te faire quand même un reproche. Pourquoi tu es partie avant moi ? Nous étions un groupe, un petit groupe, on s'est connus à Drancy. Moi, je t'ai connue en prison à Avignon, je t'ai connue en prison à Marseille, on s'est retrouvés à Drancy. De toute façon, moi, je ne t'ai pas quittée et tu ne me quittais pas. Mais on n'était pas ensemble, on n'avait pas du tout la même éducation. Et oui, moi j'ai vendu des caleçons, j'ai vendu des chaussettes, j'ai vendu des bas. Alors que toi, Marceline, tu t'es forgé une éducation en côtoyant des gens au-dessus de toi, tandis que moi, non, moi je suis toujours restée, je dis toujours, je fais le trottoir. C'est vrai, je faisais le trottoir et à Aubervilliers encore. Tu m'as fait une vacherie, t'es morte avant moi. Tu vois, je suis avec toi. Le petit groupe, je suis la dernière de notre petit groupe. Alors, qui va être derrière moi ? Eh bien, ça ne sera pas toi. C'est pour ça que tu m'as fait une vacherie. Tu n'aurais jamais dû partir avant. Tu vois, Marceline, même là-haut, même le ciel est ami avec toi. Ce matin, il pleuvait. Et maintenant, regarde, ton dernier voyage va être sous le soleil. Tu as de la chance, Marceline. Au revoir. Grosse bise.
Merci aux amis et à la famille de Marceline, au Café de Flore, à Yves Jelan, Nathan Zanagar, Liv Evin Tamalet et Gala Evin Tamalet. Prise de son, Manon Houssin, Éric Boisset, Fabien Gosset. Mixage, Alison Ascrisi. Documentation, Noémie Boncourt et Véronique Lefaleur. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin et Christine Bernard. Un documentaire d'Antoine Ravon, réalisé par Franck Lilin.